Tamani, voici nos informations en français.
8 heures à Yuaru dans la région de Mopti, même heure partout au Mali. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition matinale. Voici les titres. L'insécurité ne faiblit toujours pas au centre et au nord du pays. Des cas d'enlèvement, des menaces des présumés terroristes et des attaques sont signalés dans les cercles de Nyono, Yuaru et Diréya. Violence intercommunautaire à Tombouctou, comment y mettre un terme? Les leaders communautaires, les FAMA, les forces internationales, mais également les ONG sont à pied d'œuvre pour y parvenir. À Kolokani, dans plusieurs villages, les parents ont refusé de libérer les enfants pour suivre les cours, une situation qui préoccupe les responsables scolaires. À la présentation de cette édition, Assetou Kanté, mise en onde, Gagné Kanté. Les actes d'insécurité continuent dans le nord et le centre du Mali, alors que plusieurs localités du cercle de Nyono sont sous la menace de présumés terroristes. Le chef de village, également imam d'un village du cercle de Yuaru, a été enlevé par des hommes armés. À Diréya, c'est l'Institut de formation des maîtres qui a reçu la visite des bandits armés. Pendant ce temps, dans un communiqué, la force Barkhane annonce neutraliser un groupe terroriste vers la frontière Mali-Niger et saisir des munitions. Ousmane Yaliboli.
Selon des sources, l'imam et les chefs du village de Sunkaru dans la commune de Dirma, cercle de Yuaru, ont été enlevés alors qu'ils se trouvaient chez eux. Leurs ravisseurs seraient des présumés djihadistes, mais toujours pas de nouvelles des deux hommes, rapportent des sources locales. Pendant ce temps, c'est le statu quo à Farabougou, localité située dans la commune de Dogofiri, région de Ségou. Le village est toujours encerclé par les présumés terroristes. L'armée a indiqué ce lundi avoir largué des vivres aux habitants de la localité. À quelques kilomètres de Farabougou, à Kourouman-Kou, les présumés terroristes ont sommé les habitants de quitter la localité, rapporte des sources locales. À Diré, dans le nord du pays, des hommes armés ont attaqué l'Institut de formation des maîtres IFM vendredi dernier. Les assaillants qui voulaient enlever un véhicule ont pu finalement emporter quelques matériels. Ces attaques interviennent après l'annonce faite par la force Barkhane d'avoir neutralisé un groupe terroriste dans le village d'Insanana, près de la frontière Mali-Niger. Des opérations menées avec la force conjointe du G5 Sahel précisent les communiqués.
Nous précisons qu'il s'agit d'une personne enlevée dans le cercle de Yuaru, le chef de village de Sunkaru, qui est également l'imam de la même localité. Selon certains spécialistes des questions sécuritaires, il ne faut pas attendre que les villages soient attaqués pour intervenir. Selon Serge Daniel, il faut mettre un dispositif mobile pour empêcher que ces villages soient occupés. Aussi, ajoute-t-il, il faut contrôler les points d'approvisionnement de ces groupes en carburant. Serge Daniel, journaliste écrivain, spécialiste des questions sécuritaires, joint par Mohamed Ali Ag Alaïda.
Si vous n'avez pas d'administration dans ces localités, même une administration ambulante dans ces localités, vous ne pouvez pas vous en sortir. Il ne peut plus avoir en principe un véhicule de transport qui circule sans convoi dans ces localités. Et puis peut-être qu'à des endroits, il ne faut plus que l'armée soit sédentaire. Il faut une structure légère, mobile, de sécurité pour pouvoir combattre ces bandes-là. Vous avez vu que ces bandes roulent généralement à moto. Si les bandes roule à moto, c'est qu'elles ont de l'essence. Où est-ce qu'elles prennent l'essence? On doit pouvoir contrôler les points de vente d'essence. Ça, c'est faisable. À un moment, on a interdit la circulation des deux roues. Faisons respecter ces choses-là et vous verrez, les choses avanceront.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. L'ancien président du Burundi, actuel haut représentant de l'Union africaine au Sahel et au Mali, Pierre Buyoya, a été condamné par contumace à la prison à vie par la justice burundaise. L'information est rapportée par l'AFP qui indique que l'ex-dirigeant burundais a été jugé coupable de l'assassinat de Melchior Ndadaye, lui aussi ancien président burundais. Le front social de nouveau agité, moins d'un mois après l'installation des autorités de la transition, les syndicats des administrateurs civils et celui de l'hôpital Gabriel Touré ont entamé des mouvements de grève cette semaine. Les médecins demandent une amélioration des conditions de travail alors que les administrateurs civils exigent en plus des meilleures conditions de travail, la libération de leurs collègues retenus en otage. Les détails avec Maliki Diallo.
Après les administrateurs civils, hier lundi 19 octobre, le syndicat de l'hôpital Gabriel Touré a à son tour entamé une grève de 72 heures aujourd'hui 20 octobre. Les travailleurs de l'hôpital exigent le remboursement versement des primes de fonction spéciale prélevées sur les salaires du personnel bi appartenant. Aussi, il demande le paiement intégral à l'UNPS des arriérés des reversements pour le personnel contractuel. L'aménagement d'un système d'évacuation des eaux usées, la réhabilitation des blocs opératoires et la réparation des deux salles d'hospitalisation à la pédiatrie font aussi partie des doléances du comité syndical. Hier, ce sont les syndicats des administrateurs civils qui ont donné le ton. Ils ont mis en exécution leur menace de grève de 15 jours. Ceci aussi exige la libération de certains de leurs collègues enlevés par des présumés terroristes et l'amélioration de leurs conditions de travail, notamment le renforcement de la sécurité des administrateurs civils. Ces deux grèves sont les premières depuis la mise en place des nouvelles autorités de transition il y a moins d'un mois. Elles vont constituer le baptême de feu des autorités de transition, affirment certains observateurs.
Comment mettre fin de façon définitive aux violences entre communautés dans la ville de Tombouctou? La question était au centre d'une rencontre qui a réuni tous les acteurs de Tombouctou, les leaders communautaires, les FAMA, les forces internationales, mais également des ONG. Cette rencontre intervient quelques jours après les violences survenues dans la ville entre communautés. Selon Bilal Mahaman, représentant du Centre pour le dialogue humanitaire, beaucoup d'efforts ont été faits pour prévenir les violences entre communautés dans la cité des 333. Il est au micro de notre correspondant Boubacar Diteye.
Plusieurs fois, de 2018 à nos jours, on a organisé des rencontres avec les jeunes de Tombouctou et de Toudeni pour contribuer à éviter ce qui s'est passé la semaine dernière. Il n'y a pas une semaine, les mêmes jeunes se sont retrouvés ensemble au conseil régional de Tombouctou pendant 3 jours. Une première rencontre a regroupé les jeunes de la commune urbaine de Tombouctou qui ont été sélectionnés sur la base des événements du 19 septembre 2019. Ils ont fait une réunion, ils ont fait des recommandations, ils ont fait le diagnostic du problème au niveau de Tombouctou. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que chaque fois qu'il y a un événement ou un incident, que des enfants, des badauds ou des jeunes s'attaquent à des innocents qui n'ont rien à voir avec les circonstances. Donc on a posé des questions dans ce sens pour qu'on trouve la solution. Le même exercice a été fait le lendemain avec les jeunes arabes et les jeunes touaregs de Tombouctou et de Toudeni. Le troisième jour, on a fait une rencontre de synthèse avec les jeunes de deux groupes. Ils ont sorti des engagements qu'ils ont signés eux-mêmes. Et malheureusement, une semaine après, c'est comme si rien n'a été fait.
Parlons éducation, alors que les examens de fin d'année ont débuté partout au Mali, à Kolokani, plusieurs établissements scolaires n'ont pas rouvert depuis la fin de la grève des enseignants le 14 septembre dernier. La reprise de l'école a coïncidé avec la période hivernale, moment intense des travaux champêtres. Dans plusieurs villages, des parents ont refusé de libérer les enfants pour suivre les cours. La situation préoccupe les responsables scolaires qui demandent aux parents de penser à l'avenir des enfants. Un reportage de notre correspondante Christine Abibatoudra de retour de Kolokani.
La reprise des cours n'est toujours pas effective dans plusieurs écoles du cercle de Kolokani. Et pour cause, celle-ci coïncide avec la période des travaux champêtres. Selon Cheikh Oumar Diakité, directeur du premier cycle E de Kolokani, beaucoup de parents retiennent leurs enfants pour les travaux champêtres.
Les parents disent que tant que tu ne vas pas amener les animaux au pâturage, tu ne peux pas aller à l'école. Ou bien tant que vous n'allez pas déterrer les arachides ou bien ramasser le haricot, vous n'irez pas à l'école. Donc cela pose énormément de problèmes. Jusqu'à présent, on peut dire que dans les 6 communes que le cap de Kolokani gère, il y a des écoles qui n'ont pas été prises depuis le 14 septembre.
Les parents affirment n'avoir pas le choix. Selon Bandjougou Traoré, parent d'élèves, les parents se trouvent face à un dilemme.
Il y a beaucoup qui retiennent leurs enfants. Ils vont les retenir parce qu'ils sont condamnés. Ou bien ils s'apprêtent à braver la famine. Si tel n'est pas le cas, ils sont obligés de retenir leurs enfants pour les travaux champêtres.
À défaut de dispenser les enfants des travaux champêtres, le directeur invite les parents d'élèves à organiser les emplois du temps afin que les enfants puissent concilier les deux. Cheikh Oumar Diakité, directeur du premier cycle E de Kolokani.
L'appel que j'ai à lancer aux parents, on peut perdre une saison pluvieuse, mais on ne peut pas vraiment rattraper ce qu'on a perdu sur le plan scolaire. Donc, il faut vraiment laisser les enfants aller à l'école du lundi au vendredi. Le samedi et le dimanche, les peuples les aider à faire les travaux champêtres.
À Kolokani, les parents invitent les autorités à prendre des mesures pour que cette situation ne se reproduise pas dans les années à venir. Cela pour le bien de tous, disent-ils. Christine Abibatoudra, de retour de Kolokani pour Studio Tamani.
À présent, la situation de la COVID-19 au Mali. À la date de ce mardi 20 octobre 2020, les autorités sanitaires du pays ont enregistré 4 nouveaux cas positifs, 5 patients guéris et 0 décès. La situation cumulée est de 3411 cas confirmés, dont 2593 guérisons et 132 décès. Place maintenant à notre rubrique Actu Covid, présentée par Ramsey Toutouré.
Au plaisir de vous retrouver pour Actu Covid. Ce matin, nous partons à la rencontre d'une dame impliquée dans le traitement du coronavirus à l'hôpital du Mali. Elle se nomme Dorine Christelle Voting. D'origine camerounaise, Dorine est arrivée au Mali en 2008 pour des études à la faculté de médecine. Ensuite, elle s'est installée ici car elle estime que la médecine malienne a une bonne réputation à l'étranger. Depuis le début de la pandémie, elle est l'une des premières femmes qui s'occupe de la prise en charge des malades de Covid-19. Dans les unités de traitement de la maladie, les femmes travaillent-elles au même titre que les hommes qui exercent le métier? Élément de réponse dans ce reportage de Khalifa Goïta.
Assise et vêtue en blouson blanc dans son bureau au sein de l'unité de prise en charge de l'hôpital du Mali, Madame Dorine Christelle Woting est au chevet des malades de Covid-19 depuis les premières heures de la pandémie. Malgré la crainte, le médecin ne baisse pas les bras pour soulager les patients.
Quand on commençait, j'étais la seule femme médecin. Donc, il y avait ce stress-là. Je culpabilisais parce que je me disais, je suis en train d'exposer ma famille. Mais toutefois, je me disais, il faut que je contribue à cette guerre-là. Dieu faisant les choses et puis avec notre persévérance, ça va, j'ai pas été contaminée. J'ai pas eu aussi à contaminer mes proches.
Certes, la menace de la maladie est grande du côté des infirmières et doctoresses. Toutefois, Dorine estime que cela ne doit pas l'air démotiver.
En tant que médecin, femme, nous devons donner notre savoir-faire à la population, aider tant bien que mal.
Notre interlocutrice précise que le courant passe entre les femmes et hommes du corps médical. Le personnel masculin se dit conscient de l'importance du rôle et la place des femmes à leur côté.
À Yoroso, plus d'une trentaine de directeurs techniques des centres de santé communautaire, des matrones et des agents du centre de santé de référence de Yoroso ont bouclé lundi dernier 3 jours de formation. L'objectif est de prévenir et contrôler la propagation de la Covid-19 dans les structures de santé. L'atelier est organisé par la direction régionale de la santé de Sikasso en partenariat avec l'UNICEF. Écoutons maintenant la question d'auditeur, puis la réaction de Dr Fadié Traoré, médecin généraliste au deuxième centre Covid de l'hôpital du Point G.
Utiliser le même casque pour emprunter les mototaxis peut-il être un facteur de contamination à la Covid-19?
Si une personne infectée par le virus avait porté le casque et qu'une autre porte le même casque, sûr, la personne sera infectée. Bon, dans ce cas, ce qu'il faut faire, le mieux est de chaque fois désinfecter le casque avant que quelqu'un d'autre le porte.
C'est tout pour Actu Covid d'aujourd'hui. Vous pouvez réécouter ce programme à tout moment sur notre page Facebook ou rendez-vous sur la plateforme Viamo en composant le 37 321, option 3-4.
Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
Faisant un tour dans les régions à Gao, depuis le week-end dernier, un feu d'origine inconnue a été déclaré dans la commune de Soni Alibert. Lundi, des villages de la commune de Gounzoureye ont été atteints. Hier, le feu s'est dirigé vers Ntara, dans la commune de Ntilit. L'incendie aurait provoqué d'importants dégâts et ravagé tout sur son passage. Selon les autorités locales, les dispositions ont été prises pour maîtriser le feu. La campagne pour une paix durable dénommée Je compte a été lancée lundi à Massina. Selon la présidente de la coordination des associations ONG féminines, les femmes ne doivent pas être exclues des processus de négociation, de réconciliation et de la consolidation de la paix. Financé par Oxfam International et l'ONG Adilo, le lancement a pris fin par une remise de kits de lavage des mains et des cartons de savon à quelques associations féminines et à la mairie de Massina. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web www.studiotamani.org ou en appelant sur la plateforme Viamo au 37 321. Restez à notre écoute. Dans quelques minutes, vous aurez la version Bambara avec Aïssata Diarra. Mais avant tout de suite, la question A.